Dans l'actualité des idées aujourd'hui, Bourdieu au-delà du mythe, avec notre invité Marc Joly, sociologue, spécialiste de Norbert Elias, chargé de recherche au CNRS. Il montrait dans son précédent ouvrage « La révolution sociologique, l'émergence à la fin du 19e siècle d'un nouveau régime de pensée scientifique transnationale qui venait bouleverser nos représentations de l'existence humaine » et on le recevait dans ce cadre-là, ici autour de la grande table. Aujourd'hui, il revient à cette tradition ou ces traditions de la sociologie et s'intéresse donc à la figure et surtout à l'œuvre de Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu figure donc de la sociologie admirée ou contestée. Plus de 15 ans après sa mort, l'auteur de La Reproduction, de La Distinction ou encore de La Misère du Monde continue à faire débat. Il aurait scindé la sociologie en deux, scindé, fracturé les sociologues en deux camps. D'un côté, ses partisans tenant d'un déterminisme défendant le poids des structures sociales. De l'autre, les tenants d'une sociologie individualiste, partisans de la liberté de chacun et de leur responsabilité. Dès le titre, Marc Joly prend ici position pour Bourdieu dans ce nouvel ouvrage qui paraît au CNRS Édition. Une réponse peut-être aux critiques, une entreprise de réhabilitation, une pierre nouvelle dans le jardin des querelles idéologiques. Lui dit qu'il s'agit surtout d'un passage en revue critique des propositions bourdieusiennes dont il dit vouloir questionner la pertinence scientifique, déboulonner non pas le mythe, mais un certain nombre d'idées reçues, car Bourdieu c'est aussi et d'abord la domination, le capital, la violence symbolique ou encore la théorie des champs, autant de notions, de concepts qu'il nous faut peut-être revoir aujourd'hui à la lumière de l'actualité. Bonjour à vous Marc Joly.
Bonjour.
Une fois n'est pas coutume, on va ouvrir cette émission en donnant la parole, si vous le voulez bien, à un auditeur.
Un auditeur pour vous, Pierre Bourdieu, au 520-0550. Bonjour monsieur et merci de nous appeler.
Bonjour. Je voudrais poser une question en rapport avec ce problème du goût et aussi bien sur la stratification dans le système scolaire. Dans quelle limite peut-on parler de liberté individuelle? Est-ce qu'elle existe ou pas?
Vaste question.
Oui, c'est aussi une question très très sérieuse, mais je pense pas que je puisse y répondre. J'ai dit, je crois, autant par mon discours que par mon attitude, enfin, que le sociologue n'était pas métaphysicien. Enfin, bon. Simplement, ce que je peux dire, c'est que tout ce que nous essayons de faire tend à nous faire voir que là où, comment dire, l'expérience subjective, l'idéologie, disons, nous porte à voir la subjectivité libre, nous découvrons des déterminismes. Et à mesure que la connaissance avance, enfin, plus nous en savons sur le monde social, plus nous en savons sur les mécanismes sociaux, plus nous trouvons des déterminations sociales. Et plus l'asile de la liberté recule. Bon. Voilà. C'est un peu le travail du sociologue de découvrir la nécessité là où on vit la liberté. Bon. Ce qui ne consiste pas du tout à nier la liberté, mais ça serait un autre débat.
Et oui, en 1977, il y avait des auditeurs qui avaient la parole sur France Culture dans cette émission. Ne quittez pas l'écoute qui interrogeait Pierre Bourdieu. On est 40 ans après, on est aussi plus de 15 ans après la mort du sociologue. Qu'est-ce que la sociologie doit aujourd'hui encore à Pierre Bourdieu, Marc Joly?
Beaucoup de choses. Elle lui doit déjà d'avoir permis de renoncer à des fausses oppositions, à des faux problèmes. Et par exemple, ce problème liberté-déterminisme, normalement, n'a plus lieu d'avoir d'être dans la recherche et la réflexion des sociologues de profession. Alors ça revient, comme vous l'avez suggéré, vous l'avez dit au début. Mais normalement, le problème est réglé depuis longtemps. C'est un extrait de 77. Bon, même avant, le problème, il est réglé. Durkheim, déjà, en 1895, c'est un extrait que cite Arnaud Saint-Martin dans un article de Zilzel 3, expliqué dans un article sur l'enseignement de la philosophie que le problème liberté-déterminisme n'avait aucune utilité pour l'éducation sociale des élèves, disait-il. C'est un problème de métaphysique transcendante. 1895. Bon, donc c'est vrai que c'est un problème qu'on, normalement, on est censé avoir laissé derrière nous.
C'est ce qu'il entend par ces mots, je ne suis pas un sociologue métaphysique.
Exactement, ouais,
c'est ça.
C'est cette idée-là. C'est un problème de métaphysique. Est-ce qu'on est libre ou pas? C'est un problème qui n'est pas un problème scientifique.
Et pourtant, cette querelle qui fait partie d'un certain nombre de sujets qui divisent aujourd'hui la classe des sociologues, ce clivage pro-anti semble indépassable aujourd'hui. Alors comment expliquer qu'il soit toujours en vigueur? Parce qu'il n'est pas dépassé.
Alors, ça dépend à quelle échelle on pose le problème. Je pense que si on regarde aujourd'hui la profession, comment les sociologues travaillent, je pense que le problème déterminisme, liberté ou holisme, individualisme, pour reprendre un peu ces fausses oppositions, est réglé. C'est-à-dire pour 99% des sociologues, grosso modo, on étudie des processus, des structures, des déterminations de manière de plus en plus fine, avec des techniques de plus en plus élaborées, et n'aborde pas ces questions-là.
C'est réglé pour les sociologues, mais peut-être pas pour tout le monde.
Alors
parce
justement,
que, non, mais si non, vous mais quand, raison, quand ouais. on dit, voilà, vous êtes, on est déterminé, etc., de plus en plus déterminé, qu'on vient d'entendre Bourdieu le dire clairement, on peut quand même se poser la question de savoir dans quelle mesure on conserve dans le champ social, dans notre activité, une liberté. C'est une question qui n'est pas uniquement métaphysique, ou en tout cas, elle peut être rabattue sur le champ, si je puis dire, ou
oui,
sur l'espace
non, vous avez tout à fait raison,
immanent.
Bien sûr, voilà. Bien sûr c'est une question qui se pose à chacun d'entre nous. Moi, je pense qu'il vaudrait mieux la poser en termes de quelles sont nos marges de manœuvre dans les espaces auxquels on appartient, et on ne peut pas ne pas appartenir à des espaces de position qui contraignent ce qu'on fait, ce que l'on est, et comment on construit, on essaie de réfléchir à la construction de marges d'autonomie dans des espaces structurés, préétablis. C'est comme ça que je pense que la plupart des gens peuvent être incités éventuellement à poser le problème de ce qu'ils sont à la lumière de ce que la sociologie apporte.
Si vous avez fait cet ouvrage, Marc Joly, c'est qu'il y a un certain nombre de voix qui continuent à s'élever contre l'auteur de la reproduction et de la domination masculine. Et parmi ces voix, il y a celle de Gérald Bronner et d'Étienne Géhin avec leur ouvrage « Le danger sociologique » paru au PUF. Pour eux, la théorie du déterminisme social sans considération pour la liberté des acteurs sociaux est à questionner, à remettre en question aussi. Ils estiment que Bourdieu fournit un récit un peu trop idéal pour déresponsabiliser l'individu. Écoutez Gérald Bronner.
Lorsque les sociologues tout de même revendiquent, il y en a un certain nombre, que la sociologie c'est expliquer le social par le social. Qu'est-ce que ça veut dire expliquer le social par le social? C'est expliquer une situation de fait, par exemple l'échec scolaire, par une variable qui est l'origine sociale. Et cet échec scolaire qui est éclairé par la variable, d'ailleurs que je ne nie pas du tout, je pense que c'est une vraie variable explicative, bien entendu, mais vous vous rendez bien compte que en expliquant cela, ce B par A, vous rapportez l'événement à un récit de type déterministe.
Donc l'explication de l'échec scolaire renforce l'échec scolaire.
C'est une des variables, pas la seule, c'est une des variables qui peut provoquer une prophétie autoréalisatrice. C'est tellement vrai qu'on donne l'exemple dans le livre, qu'en effet on sait que toutes les populations, par exemple immigrées, ont des taux de réussite scolaire plus faibles que les populations d'autochtones. Bon, il y a des chiffres de l'INED sur ce point, mais il y a quand même une exception à la règle, qui sont les Asiatiques du Sud-Est. Et c'est pas seulement en France, c'est à peu près partout dans le monde, puisqu'aux États-Unis, il y a même des dispositifs particuliers pour pénaliser, entre guillemets, certaines populations asiatiques. Et alors, les deux papiers que nous avons trouvés sur ce point, montre qu'en fait, il y a un autre récit qui est un récit aussi, qui est une idéologie aussi, qui est celle de la réussite, du mérite, etc., dans ces populations qui viennent d'Asie du Sud-Est. Et il est difficile, compte tenu des autres données que l'on a, de ne pas se dire que certains récits déterministes ont en effet une influence performative.
Là, Gérald Bronner et Étienne Géhin, pour compléter cette citation, s'en sont expliqués aussi dans la revue Le Débat, qui a été repris par Le Monde, évoquant une représentation du monde qui dévitalise les notions de mérite, de responsabilité ou de moralité, qui pourrait promouvoir de facto une culture de l'excuse car elle offre un récit idéal pour tout individu tenté d'expliquer ses défaillances, ses fautes ou ses échecs par l'action fatale des causes sociales, psychologiques ou biologiques sur lesquelles il n'a pas de prise. Alors, il s'intéresse tout particulièrement au récit bourdieusien, c'est-à-dire cette idée d'un récit autoprophétique, d'une autocomplaisance. Vous répondez, Marc Joly, dans votre ouvrage pour Bourdieu, que c'est une fausse opposition, un peu à la manière de Gisèle Sapiro, que le cœur de la pensée de Bourdieu est relationniste. Expliquez-nous.
Oui, je décale un tout petit peu votre question, parce que là, vraiment, j'ai envie de réagir à ce que j'ai entendu. Enfin, le grand apport de Bourdieu, pour expliquer par exemple l'inégalité des chances devant l'éducation, c'est d'introduire une notion qui est celle de capital culturel. Bon, de dire que les différences de réussite à l'école ne tiennent pas seulement à la transmission de ressources, à la détention d'un patrimoine, etc., mais à la transmission au sein de la famille, de savoir-faire, d'un rapport au langage, etc., qui facilite qui facilite la réussite à l'école. Bon, c'est un apport qui a l'air comme ça aujourd'hui, qui fait partie des choses établies, mais qui, à l'époque où Bourdieu l'a théorisé, était complètement nouveau. Bon. Donc c'est en ces termes-là qu'il faut poser la question des différences de réussite à l'école selon les classes sociales, éventuellement les origines migratoires, et pas en d'autres termes. Bon. Alors après, oui, le mode de pensée de Bourdieu est un mode de pensée relationnel, c'est-à-dire qu'il pense les agents, les individus les uns par rapport aux autres, et les groupes sociaux les uns par rapport aux autres. Bon. Et il montre, par exemple, que les différences entre groupes sociaux se reproduisent grâce au système scolaire. C'est que le système scolaire joue un rôle très important dans la reproduction des différences sociales et donc des inégalités. Pour moi, c'est un acquis de la recherche sociologique. Et je constate que ceux qui ne veulent pas voir en face cet acquis déplacent le problème et formulent les choses d'une manière que je trouve un peu problématique. Quoi. Là, c'est cet extrait qu'on a entendu me paraît assez problématique dans la façon de poser le problème.
On est déterminé. Bon, le relationnisme, certes déterminé par le milieu dans lequel nous sommes, chacun se trouve. Maintenant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, cette détermination collective n'est pas forcément une détermination absolue, individuelle, par rapport à la conduite que l'on peut avoir ou par rapport à la possibilité d'agir, d'améliorer ou de sortir précisément en partie de ce déterminisme. Alors, il faut quand même préciser cette question.
Mais bien sûr, c'est-à-dire que déjà, il y a un truc qu'on oublie toujours, c'est que Bourdieu s'est construit scientifiquement contre le structuralisme lévi-straussien, c'est-à-dire contre l'idée, contre la notion de règle, c'est-à-dire l'idée que les agents appliquent mécaniquement des règles que l'ethnologue peut reconstituer. Il a voulu réintroduire avec la notion d'habitus l'idée de stratégie des agents, de stratégie matrimoniale par exemple. Ça a été vraiment le cœur de sa démarche théorique qu'il a mené vers la notion d'habitus, ça a été justement de critiquer une vision mécanique, intellectualiste, objectiviste du comportement des gens, des individus. Il dit par exemple, je ne sais plus où, il dit, moi quand j'étais sur le terrain en Algérie, ce qui m'obsédait c'était de comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font. Poser en permanence la question du pourquoi. Donc en fait, Bourdieu n'a jamais nié la dimension active des agents, mais il la situe en permanence dans des espaces qui éclairent ce qu'ils font.
Voilà. Alors, dans la polémique dont votre livre est pleine, finalement, sur notamment avec le livre de Fabiani, effectivement, le fait, une fois qu'on a dit ça, le fait d'être passé au propre filtre de sa théorie est tentant. C'est-à-dire qu'on va dire, bon, à ce moment-là, de quoi Bourdieu est-il le champ, qu'est-ce qu'il amène à avoir ses positions et pourquoi lui aurait-il une position plus
scientifique,
que les autres. Ouais. Enfin, bon, c'est le fond du problème.
Ouais, c'est le fond du problème et c'est la question que j'ai essayé un peu de résoudre. Par rapport à certaines lectures de Bourdieu, moi ce qui me frappe c'est qu'on peine à lui reconnaître des choses qui devraient aller de soi et qui, je l'ai dit au début, vont en fait de soi pour la plupart des sociologues, c'est que nos structures psychiques, nos structures mentales sont déterminées, conditionnées. Enfin, on peut utiliser n'importe quel verbe, notion pour faire comprendre cette notion d'incorporation par nos structures sociales, par les structures sociales dans lesquelles on est situé. Donc, j'ai complètement oublié la question que
c'était
vous m'avez posée.
Sur le côté scientifique.
Les Bourdieusiens, vous seriez sortis de cette détermination.
Mais on n'est pas sortis de cette détermination.
Est-ce que ça ne relativise pas le propos?
Voilà. Bah absolument pas. Au contraire, ça le renforce dans l'idée où le sociologue, dans la mesure où il se met en possibilité d'appliquer sur lui-même les instruments d'objectivation qu'il a créés, qu'il utilise pour comprendre les pratiques des agents, renforce la dimension scientifique de ce qu'il dit. C'est pour ça que Bourdieu, il a commencé sa réflexion par une, une critique de l'intellectualisme et du biais scolastique, des deux grandes traditions intellectuelles visant à rendre compte de ce que les gens font, c'est-à-dire en gros l'objectivisme du structuralisme et le subjectivisme de la phénoménologie. En disant, dans les deux cas, on met dans la tête des gens des modèles théoriques. Bon, ce qu'il s'agit de faire, c'est de construire des modèles théoriques qui permettent de rendre compte de ce que sont réellement les pratiques. Et ça suppose, du coup, que le sociologue soit capable de se penser lui-même comme un producteur de théorie. Donc, comme quelqu'un qui a une position d'extériorité par rapport à ce que les gens font. Il doit d'abord objectiver sa position pour se donner les moyens de construire une théorie de la pratique plus scientifique, plus exacte que ce qui existe. Ça a toujours été quelque chose de très important pour lui. Et à la fin de sa vie, il a théorisé ce qu'il appelle la réflexivité. Et la réflexivité, c'est le fait que le sociologue, en permanence, s'interroge sur les effets de sa trajectoire sociale, sur les effets de sa position dans le champ des sociologues, et plus encore sur les effets de son appartenance à un univers scolastique, c'est-à-dire à un univers où on peut prendre le temps d'étudier les pratiques ordinaires. Le sociologue doit en permanence revenir sur tout ça pour comprendre ce qu'il fait et améliorer ses outils de connaissance. Donc, je réponds d'une certaine manière à votre question, dans le sens où le sociologue, en permanence, se prend pour objet et retourne contre lui-même les outils d'objectivation qu'il construit pour comprendre les pratiques.
Ni théorie abstraite plaquée sur la réalité, ni empirisme pur et simple, dites-vous Marc Joly, mais une sociologie façon Bourdieu, une sociologie de l'action située pour expliquer ce que vient d'évoquer Antoine Mercier. Pour Bourdieu, votre ouvrage est aussi une réponse à un autre texte plus ou moins critique à l'encontre de Pierre Bourdieu, qui est celui donc de Jean-Louis Fabiani, directeur de recherche à l'EHESS, dont vous critiquez point par point l'analyse du maître et de son œuvre qu'il a réalisée dans Pierre Bourdieu, un structuralisme héroïque. Ce livre est paru au Seuil en 2016, donc avant celui de Gérald Brunner, à qui vous reprochez donc à Jean-Louis Fabiani de s'être installé, si j'ai bien compris, dans une sorte de troisième voie, un peu confortable, ni éloge, ni blâme, quelque chose qui serait un peu dans l'air du temps et qui répondrait aux attentes de la culture dominante. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Oh, ça, c'est une analyse que je fais au début de l'ouvrage, en analysant un petit peu la réception du livre. Je dis que cette position de dire je suis pas dans les critiques et je suis pas non plus dans l'éloge des disciples aveugles et fanatiques, on trace une troisième voie qui est bien faite pour séduire les intermédiaires culturels. Bon. Le problème que m'a posé cet ouvrage, en fait, c'est que la thèse sous-jacente, c'est de nous dire que Bourdieu, en fait, a échoué et ne pouvait qu'échouer. Parce que le projet d'une théorie générale du social est hors de portée, est impossible. Bon. C'est, non seulement il a échoué, mais je dirais pire encore, il ne pouvait qu'échouer. C'est en gros le message que fait passer cet ouvrage et contre lequel je me suis... je pense que c'est une thèse... Au fond, je dirais pas destructrice, mais qui au fond témoigne que ce qui devrait aller de soi, c'est-à-dire que la sociologie, comme toute science, a vocation à donner une interprétation générale des faits qui sont de son ressort, donc à viser quelque chose comme une théorie générale du social, ce qu'on ne conteste pas chez les physiciens, ce qu'on ne conteste pas chez les biologistes. Le fait que le béaba du travail de sociologue, ce soit de conceptualiser les rapports sociaux et de mettre systématiquement en relation le mental, le psychique, aux structures sociales, c'est quelque chose qui devrait aller de soi. Le fait de mettre en doute ça, c'est mettre en doute finalement la raison d'être même de la sociologie comme science.
Donc en vous faisant l'avocat de Bourdieu, vous prenez surtout la défense de la sociologie. Comme quoi, comme une discipline scientifique capable de donner vraiment une image de l'homme moderne, comment ?
Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la sociologie, c'est une science sociale. Et en fait, quand on réfléchit à son histoire, quand on réfléchit à ce qu'est sa situation épistémologique et à ce qu'est aux conditions de sa naissance, on se rend compte que la sociologie, en tant que science sociale à part entière, si je puis dire, et en tant que la science sociale, vient d'une certaine manière parachever une sorte de régime de pensée scientifique de l'humanité qui prend naissance avec la biologie de l'évolution, puis qui intègre tout un ensemble de sciences, la psychologie, la philologie, etc. La sociologie, en tant que telle, d'une certaine manière, répond à des grandes questions philosophiques. Qu'est-ce que l'homme ? Et quelles sont les conditions de possibilité du savoir ? En fait, c'est ces grandes questions kantiennes, si vous voulez. C'est la sociologie qui va y répondre, ou, enfin, si on veut formuler les choses de manière un peu plus exacte, va cadrer les réponses qu'on peut donner en articulant un ensemble de sciences à ces grandes questions-là. Qu'est-ce que l'homme ? Qu'est-ce que sont les êtres humains ? Et comment se fait-il qu'ils sont capables de produire des connaissances adéquates à des structures et à des processus objectifs. Comment ça se fait ? Comment c'est possible, cette chose-là ? C'est la grande question de Kant.
Ces vertus de la sociologie, aujourd'hui, certains les remettent en cause. Pour vous, qui veut la peau de la sociologie ? C'est intéressant parce que vous semblez réactiver aussi cette rivalité qui n'est pas forcément compréhensible pour tous, entre la sociologie d'un côté et l'histoire et la philosophie de l'autre. Et ça peut peut-être nous ramener à la figure et à l'œuvre, au parcours de Bourdieu, qui a une formation en philosophie, mais qui fait le choix de la sociologie à un moment ou à un autre, en évoquant un changement d'habitus disciplinaire. Ces concepts ne sont pas des concepts philosophiques, c'est des concepts scientifiques, c'est ça la différence ?
Oui, c'est tout à fait ça. Enfin, je pense qu'il faudrait... on n'a pas encore les bons instruments de pensée pour comprendre ce qui se joue, mais il se joue un changement, enfin, en termes de, selon le terme de Piaget, c'est un changement de palier. C'est-à-dire qu'on passe à une autre structure du pensable, et à d'autres structures de la pensée individuelle. C'est-à-dire que c'est le rapport au monde et la façon dont on se comprend qui change complètement au cours du 19e siècle. Et la sociologie, quand elle apparaît sous une forme disciplinaire à la fin du 19e siècle, elle est le produit de cette histoire-là, qui est une histoire qui nous inscrit en rupture avec des traditions intellectuelles très anciennes, très fortement ancrées dans nos cerveaux, et elle nous amène à nous penser complètement différemment, à penser nos rapports les uns avec les autres et notre rapport au monde complètement différemment. Donc effectivement, il y a une dimension révolutionnaire, je pense, dans la sociologie en tant que science qui s'inscrit dans un régime donné de pensée de l'humanité. Et je pense qu'un auteur comme Bourdieu est le produit de cette histoire. Alors évidemment, ça bouleverse énormément de choses et d'équilibres établis. J'insiste effectivement, comme vous l'avez dit dans mon bouquin, sur le rapport de rivalité spécifique que ça entraîne avec deux grandes disciplines générales que sont la philosophie et l'histoire. Et j'essaye de poser le problème parce que c'est clair que dans la réception de Bourdieu, ça a énormément joué. C'est-à-dire le fait qu'il était philosophe, mais qu'il avait renoncé à son... d'une certaine manière, à son capital de philosophe.
Cet arrachement à la philosophie.
C'est un arrachement, c'est-à-dire que c'est pour ça que je parle de changement d'habitus, parce que c'est comme ça qu'il a vécu son passage de la philosophie à la sociologie, et ça s'est fait quand il était en Algérie, ça s'est fait progressivement, ça s'est fait parce qu'il était confronté à des problèmes par rapport auxquels on n'avait pas d'instruments conceptuels ou même d'instruments d'enquête adaptés. Il a dû totalement innover. Ça, c'est ce que montre très bien, ça fait la deuxième fois que je cite le numéro Zitzel 3. Il y a un très bon article de Johann Heilbronn sur la genèse de la théorie sociologique de Bourdieu. Il montre ça très bien, c'est-à-dire comment, dans un contexte qui est celui de l'Algérie en guerre, un jeune philosophe va être amené à révolutionner d'une certaine manière nos instruments de connaissance et d'enquête en collaborant avec des statisticiens, en faisant des enquêtes de terrain, en étudiant à la fois le rituel kabyle, mais aussi en faisant des enquêtes statistiques sur les travailleurs algériens, etc.
Est-ce que c'est pas là peut-être un des problèmes aussi de ce qui est reproché parfois à ceux qui suivent Bourdieu, à l'univers Bourdieu, c'est-à-dire de créer un système qui fait que, voilà, on définit le cadre dans lequel la sociologie peut exister, et tous ceux qui ne font pas de la sociologie sur ce mode-là sont finalement écartés de ce cercle-là. Par exemple, est-ce qu'on peut faire de la sociologie sans forcément avoir en tête de s'inscrire dans une théorie générale du social ou philosophique du social ?
Alors ça, c'est vraiment une question... très très intéressante et qui se pose effectivement. Alors, il y a évidemment plusieurs manières de faire de la sociologie. Il n'y a pas qu'une seule manière de faire la sociologie. Je pense qu'il y a un cadre théorique comme une sorte de paradigme qui devrait quand même, et qui je pense grosso modo domine. Il n'empêche qu'on peut faire, il y a différentes manières de faire de la sociologie. La question est si par exemple on fait de l'observation, on essaie d'étudier des micro-relations, des interactions. qu'est-ce qu'on en déduit en termes de théorie générale du social ? Si on inscrit l'étude des interactions dans un cadre qui est celui d'une reconnaissance de l'effet des structures sociales sur les comportements, même si ces comportements, on essaye de les éclairer sur un mode micro, et qu'on n'a pas la prétention de créer une alternative à ce qui doit relever quand même d'acquis de la pensée sociologique, c'est tout à fait recevable. Le problème, c'est la prétention qu'ont certains de remettre en cause des acquis fondamentaux de la pensée de la recherche sociologique à la faveur d'enquêtes micro, par exemple.
France Culture, ça, c'est gênant. Avec le sociologue Marc Joly, notre invité pour son nouvel ouvrage « Pour Bourdieu » qui paraît au CNRS Éditions.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Pierre Bourdieu, aujourd'hui encore figure incontournable de la sociologie qui a marqué particulièrement la deuxième moitié du XXe siècle pour comprendre aussi la place qu'il occupe aujourd'hui dans les imaginaires, mais aussi dans les facs et dans l'enseignement. Marc Joly, quel était son rapport à l'époque à l'académie ? Parce qu'il est quand même passé par les plus hautes institutions, que ce soit le HESS, que ce soit le Collège de France où il a été professeur à partir de 81. Et en même temps, on ne sait pas très bien, on a le sentiment qu'il se vivait comme marginal. Ça, c'est ce qu'on dit notamment Nathalie Hennick, qui est bourdieusienne et qui a pris ses distances un peu depuis, justement parce qu'elle lui reproche un peu ce côté sectaire ou militant de ses prises de position.
Je pense que c'est surtout quelqu'un qui s'est senti incompris. Et je pense pour de très très bonnes raisons. Quand on pense par exemple à ce que sont devenus certains de ceux qui ont été ses élèves, on peut comprendre qu'ils se sentaient pas très très bien compris. Bon. Et c'est le ressort principal de sa personnalité, c'est-à-dire que c'est un novateur d'une certaine manière, c'est quelqu'un qui a le sentiment d'innover. Et innover, ça veut dire qu'on est en opposition à des traditions établies, on vise à les dépasser et en même temps, il y a une inertie des traditions culturelles, des traditions intellectuelles. Et donc, il était en but à ça. Après, sur l'aspect politique, là, pareil, je relisais là tout récemment son fameux bouquin sur la télévision qui a été tellement critiqué, dont on a dit c'est un pamphlet. Moi, j'étais absolument... Je l'avais lu il y a très très longtemps, mais j'étais ébloui par cette... D'abord, il y a une incitation... des journalistes, enfin il incite vraiment les journalistes à faire preuve de réflexivité, à revenir sur ce qu'ils sont, sur ce qui a fait ce qu'ils sont, sur la manière dont ils sont situés dans le champ journalistique, etc. Et de ne pas mettre, de ne pas confondre leurs problèmes avec des problèmes des problèmes réels, etc. Moi j'ai le sentiment d'une très très grande incompréhension de quelqu'un qui au fond a une ligne de conduite constante. Par exemple, c'est quelqu'un qui a toujours été un rationaliste. Un rationaliste au sens où il a toujours considéré qu'on ne pouvait imaginer des solutions alternatives à ce qui est qu'à condition d'abord de parfaitement comprendre les structures sociales. Et donc, il critiquait l'utopisme un peu... l'utopisme non fondé en raison, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il a toujours défendu, très très tôt, jusqu'à la fin de sa vie, mais le contexte a changé. Et c'est aussi été une victime de changement de contexte. C'est-à-dire que ce qu'il dit a pu garder... il a pu rester fidèle à certaines choses, mais les conditions de réception étaient changées par les changements du champ. Et donc, il en a souffert aussi.
Mais est-ce qu'il n'était pas, pardon, d'abord... Oui, pardon. Est-ce qu'il n'était pas aussi incompris par ses disciples ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut aujourd'hui critiquer Pierre Bourdieu ? Est-ce qu'on le pouvait déjà hier ? Je reviens à la critique qu'en faisait Nathalie Hennick dans le Figaro l'été dernier, sur les usages aussi qu'on fait de la pensée aujourd'hui de Pierre Bourdieu, et qui dit qu'il y a 40 ans, elle était totalement en phase avec la sociologie de Pierre Bourdieu, avec qui elle avait fait sa thèse, et qu'elle se retrouvait aujourd'hui à lutter contre son emprise, je la cite, si dévoyée et caricaturée par certains de ses disciples, qu'elle est devenue un facteur d'abêtissement. Cette idée du totem Bourdieu...
C'est complètement faux. Je l'ai dit à Nathalie Hennig, je ne comprends pas qui elle vise. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de fantasme sur les disciples de Bourdieu. En fait, mon livre, c'est un livre pour Bourdieu, mais c'est aussi un livre pour ceux qu'on appelle les disciples de Bourdieu, parce que c'est insupportable. C'est-à-dire qu'on invente des disciples de Bourdieu, bêtes et méchants, qui appliquent mécaniquement des concepts. En vérité, quand on regarde de près, je l'ai fait dans le livre que je viens de sortir, quand on regarde comment travaillent les pseudo-bourdieusiens, qu'on regarde comment ils mobilisent les concepts de Bourdieu, on constate une très très grande prudence. Par exemple, on dit toujours les bourdieusiens utilisent à tort et à travers la notion de capital, etc. Mais en fait, c'est pas vrai du tout. Ils sont très prudents, ils distinguent bien, quand, par exemple, s'ils évoquent le capital culturel, ils vont bien distinguer capital culturel scolairement certifié ou pas, transmis par la famille. Là, je lisais récemment un bouquin très très bon sur les agents immobiliers de Lise Bernard. Elle fait ce travail-là. On se dit les agents immobiliers, c'est un métier... Il faut avoir de la niaque uniquement pour réussir. Non, elle montre qu'il faut posséder un capital culturel, des dispositions, des ressources pour réussir dans ce métier. Ça paraît tout bête, mais c'est ça, en fait, la recherche sociologique telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. C'est des gens très prudents et très consciencieux sur les concepts qu'ils utilisent.
Ouais, on peut se demander à quoi ça sert d'avoir compris, parce que finalement, dans le champ dont vous parliez sur la télévision, tous ces champs, notamment journalistiques, on a l'impression que ça s'aggrave plutôt qu'autre chose. Quel est votre sentiment ?
Je ne sais pas si ça s'aggrave. Je pense qu'il y a des éléments qui nous permettent de nous dire qu'il y a eu une prise de conscience, que l'autonomie des idées, de certaines idées, se construit, donc suppose une réflexion en amont sur les forces qui peuvent peser sur la production d'un discours. Par exemple, je trouve que la création du média, c'est très intéressant sur Internet, c'est très très intéressant. Ça procède d'une vraie réflexion sur l'autonomie des idées, de la pensée par rapport à des forces économiques, à des forces financières, politiques, etc. Donc il faut constamment réfléchir à qu'est-ce qui parasite l'autonomie de la pensée et du travail.
Il trouverait l'école, l'époque passionnante, Pierre Bourdieu, vous pensez aujourd'hui ?
Justement,
avec Internet, les réseaux sociaux.
Ouais. Je ne veux pas parler pour lui, mais je pense qu'il serait comme il l'était sans doute. C'est-à-dire, d'un côté, il trouvait les choses passionnantes et d'un autre côté, déprimantes. Ça dépendait peut-être des jours. Mais il y a de quoi, effectivement, voir des signes positifs et en même temps se dire que ça va être. C'est très très dur en fait de faire entendre un message, un discours de vérité et de raison sur la façon de comprendre et d'exprimer le monde social.
Merci beaucoup Marc Joly pour Bourdieu. Apparu.
Dans deux jours, ça sort le 1er février.
Bien ça. Merci, on est ravis que vous soyez venus nous en parler avec cette primeur. Au CNRS édition pour Bourdieu, Marc Joly a noté aussi la sortie en mars à la découverte d'un autre ouvrage, Foucault, Bourdieu et la question néolibérale, signé Christian Laval, spécialiste du libéralisme et prof de sociologie à l'université Paris-Ouest Nanterre, La Défense. Merci à toute l'équipe de La Grande Table, à la préparation de programmation aujourd'hui encore, Claire Maillot et Clémence Marie, Henri Leblanc et Chloé Leblon, avec l'aide très précieuse de Bertie Bourdon et de Maxime Morin. La réalisation aujourd'hui, Perret Legras, avec Julien Calvas. Rendez-vous demain avec la soprano Léa Descendre et Gilles Delannoy qui viendra nous parler de La Nation. Voilà, dans la deuxième partie de l'émission, Antoine Mercier. Merci à tous.